À la leçon précédente, nous avions abordé une figure de l'utilitarisme contemporain, Peter Singer. J'avoue que je ne sais pas, parce que j'ai entendu beaucoup de gens l'appeler Singer. Bon, enfin bon, je l'appelle Singer, je présume qu'étant célèbre dans les milieux anglo-saxons, on devrait prononcer son nom comme ça, comme un simple chanteur. Et donc, ce maître chanteur en éthique aboutissait finalement à ce qui nous semblait être une sorte d'impasse. Le premier paradoxe, ou la première contradiction plutôt même que nous voyons, c'est que même s'il y a un aspect de paradoxe, c'est-à-dire quelque chose qui est un problème général, on pourrait dire de la justice, mais là, ça devient vraiment une contradiction. Là. C'est que, au fond, pour bien agir, il faut adopter le point de vue d'un spectateur universel, impartial. Mais le problème de l'action, c'est que c'est d'être acteur. C'est pas d'être spectateur. Et donc, vous voyez, on trouve cette tension assez terrible qui est un vrai paradoxe, je pense, de l'action morale, c'est-à-dire à la fois allier l'engagement, la prise de parti, forcément, et une forme de dégagement ou de désengagement et d'impartialité. Mais il y a un problème. Si je suis complètement spectateur impartial, pourquoi commencerais-je à agir? Qu'est-ce qui motive mon action? Et mon action, forcément, elle est motivée parce que je suis de parti pris, parce que je suis pris, finalement, dans quelque chose. Donc, il y avait ce premier problème qui était un problème majeur qu'on peut reconnaître, au moins en partie, comme étant un vrai problème de morale. Le second problème qu'il a est vraiment un problème insoluble et qui introduit une sorte de paralysie totale de l'action, c'est que, du point de vue conséquentialiste, je dois évaluer une action en considérant les intérêts, tous les intérêts des personnes qui sont engagées par cette action, mais en plus en anticipant les conséquences. Or, comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça n'est pas, là, pour le coup, usurper une position divine? Je peux anticiper certaines choses, mais il y a des choses qui m'échapperont toujours. Et même le conséquentialisme en morale aboutit finalement à une confusion du bien et du mal. Puisque, comme je vous l'avais dit en concluant, nous pourrions dire, finalement, l'extermination de 6 millions de Juifs a eu des effets positifs ou des conséquences positives, puisque d'une certaine façon, grâce à cela, ou plutôt au moyen de cela, nous avons abandonné l'anti-judaïsme qui avait lieu dans l'Église, d'ailleurs, on veut dire. Il y a eu des changements, parce que devant l'énormité, si vous voulez, du crime, en plus, il y a eu la création de l'État d'Israël, en plus, ouais. Et vous pouvez dire, ben voilà, donc finalement, merci, chapeau Hitler, super. Si on juge une action d'après ses conséquences, uniquement d'après ses conséquences, vous voyez, il y a forcément une confusion du bien et du mal, parce que les conséquences, d'une part, sont contingentes, mais en plus, elles sont innombrables, elles sont même presque incernables. Donc, il y a une imprévisibilité de l'avenir, et dès lors, on peut se dire, il y a quelque chose qui n'a pas été vu. On a pris la morale par le mauvais côté. Cette histoire de calcul, d'anticipation de choses qui ne dépendent pas de nous, de cet avenir qui n'est pas en notre pouvoir, c'est de la folie. Il y a quelque chose à faire, la première chose à faire, peut-être en morale, c'est de distinguer ce qui relève de notre pouvoir et ce qui n'en relève pas. et de se dire que la morale, c'est pas la gestion du monde par un individu qui serait un spectateur impartial et qui pourrait tout anticiper, donc qui devrait tout programmer finalement. Donc c'est ça qui est terrible. C'est plutôt déjà de trouver soi-même suffisamment de, on pourrait dire, de paix intérieure pour bien agir, pour ne pas être tourmenté par les passions, mais aussi d'abord distinguer finalement ce qui est en notre pouvoir et ce qui n'est pas de l'ordre de notre pouvoir. Ça, c'est le premier point. Et vous voyez pourquoi je veux aller vers un autre système de morale, qui est le stoïcisme, parce que la première affirmation du stoïcisme, c'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et puis, la deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que dans l'utilitarisme, on a l'impression que le bien dépend entièrement de l'intervention humaine. Comme si le monde était un monde, je dirais, en lui-même mauvais, et il ne s'agirait pour nous que d'intervenir pour, ou neutre, hein, et d'intervenir pour bien répartir les choses. Or, vous voyez, il y a peut-être un autre point de vue qui est aussi le point de vue stoïcien, c'est qu'il y a, ça c'est une des grandes thèses stoïciennes, hein, une nature qui est bonne, un cosmos qui est assez ordonné, et notre tâche est moins d'intervenir sans cesse pour le réordonner que de vivre conformément à cet ordre. Autrement dit, il y a une providence divine déjà en place, il faut avoir confiance, ce n'est pas à nous de tout faire, de tout transformer, de tout construire dans l'ordre de la justice et du bien, mais plutôt à nous d'accepter se donner cet ordre et de l'accompagner et de le prolonger par nos actions. Là, il y a deux aspects hein, essentiels, on pourrait dire, au stoïcisme, hein, distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et puis de l'autre côté, imiter le cosmos ou agir conformément à la nature. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas nous qui construisons par un algorithme ce que doit être le bien, mais nous qui acceptons un ordre déjà donné qui tend, on pourrait dire, de lui-même vers le bien, et donc nous devons empêcher tout ce qui pervertit cet ordre, à savoir spécialement l'action humaine, l'erreur humaine, la perversité, etc. Oui, Cécile. Et alors, il y en a peut-être encore qui ont circulé par là-bas les feuilles. Essayez de les récupérer, je ne sais pas. Oui. Si vous pouvez la faire passer devant, enfin de l'autre côté. Je disais que il s'agit pour l'action morale d'agir conformément à la nature et non pas de tout construire l'ordre du bien. Il y a un ordre du bien qui est déjà présent dans la nature et il s'agit surtout, nous, de nous corriger pour vivre conformément à cet ordre. Ce n'est pas à nous d'établir tout le bien qu'il y a dans le monde et de tout gérer. Là, on voit bien qu'il y a une sorte, dans l'utilitarisme, d'intrusion dans tout, même dans la natalité, dans les naissances, dans les, vous voyez, dans tout. Ce n'est pas du tout l'objet ou la priorité du stoïcien. Alors, pour parler du stoïcisme, j'ai choisi un auteur qu'on ne choisit pas ordinairement. C'est sans doute le plus grand des écrivains stoïciens, en tant qu'écrivain. Sénèque, qu'on appelle Sénèque le jeune parfois, ou le philosophe, est un des plus grands auteurs latins. Mais si je l'ai choisi, ça n'est pas pour la qualité littéraire ou poétique de ses écrits. C'est d'abord parce qu'en lui apparaît une ambivalence, une ambiguïté qui est très intéressante et qui permet de voir justement à la fois les qualités et les limites du stoïcisme. Il y a deux choses qu'on voit chez Sénèque qui sont vraiment très intéressantes. La première chose, c'est que il y a deux Sénèques. Sénèque le philosophe et Sénèque le tragédien. Et que les deux œuvres sont très difficiles, ne sont pas si faciles à articuler entre elles. Sénèque le tragédien est l'inspirateur de tout le théâtre élisabétain. Vous savez que quand on va recommencer à faire du théâtre en Angleterre avec toute cette force inouïe, cette violence aussi du théâtre élisabétain, ça sera donc sous Élisabeth, et donc avec l'avènement de l'anglicanisme, ce qui va donner des auteurs plus ou moins connus. Bien sûr, les plus connus sont John Ford, Christopher Marlowe et surtout Shakespeare, qui les dépassent tous. Eh bien, ce théâtre d'une très grande virulence vient d'une relecture des œuvres de Sénèque. Nous avons monté ici les Troyennes de Sénèque, mais si vous avez l'occasion de lire, par exemple, sa Médée, vous êtes face à une œuvre qui est d'une cruauté, d'une... Eh bien, Médée qui tue ses enfants, bien sûr, parce qu'elle ne veut pas se séparer de Jason, etc. Donc elle se venge sur les enfants qu'elle a eus avec lui. Donc l'infanticide, il a une pièce très célèbre, bien sûr. C'est lui qui a écrit la grande pièce sur les Atrides. Mais les Atrides, on connaît plutôt par les anciens à partir d'Agamemnon. Mais ce qui est intéressant, c'est de remonter et d'arriver à Atrée. Alors, vous savez qu'Atrée a cette intention délicate de feindre qu'il se réconcilie avec son frère Thieste, d'organiser pour cela un festin, et dans ce festin, de lui faire manger ses propres enfants. Donc, imaginez, hein. Et alors, l'écriture de Sénèque le tragédien a une sorte de jouissance à montrer, vous voyez, l'excès, le paroxysme du crime. Jusqu'à l'horreur. Hein. Il y a une écriture de la cruauté dans la tragédie de Sénèque qui est quasiment indépassée ou indépassable dans l'histoire de la littérature. Et aussi bien les auteurs élisabétains, le premier Shakespeare, Antonin Artaud, feront toujours référence à cette tragédie de Sénèque comme une écriture de la cruauté saisissante. Et en même temps, il y a l'œuvre du philosophe, qui est une œuvre qui renvoie justement à autre chose que le déchaînement des passions, et même à l'idée qu'il faudrait s'arracher à toute passion. Alors, vous pouvez dire, c'est comme ça qu'on l'a articulé, hein, Sénèque a son œuvre de philosophe, où il dit qu'il revendique une forme de détachement, de citadelle intérieure stoïcienne, qu'on connaît bien, et de l'autre côté, il nous présente des personnages tragiques qui sont dans la démesure, qui vont dans une violence extrême, qui sont au contraire les instruments d'une passion déchaînée. Et on pourrait dire, voilà, il nous fait cette œuvre comme le contre-exemple. Voilà, regardez jusqu'où ça mène, voilà ce qu'il ne faut pas suivre. C'est comme ça qu'on a interprété la relation entre les deux œuvres. Mais métaphysique, c'est plus complexe que ça. Vous voyez, donc il y a cette ambiguïté entre le philosophe qui prône le détachement à l'égard des passions et le tragédien qui nous présente un spectacle des passions déchaînées. C'est l'ambiguïté profonde de Sénèque. Le deuxième point qui m'intéresse chez Sénèque, c'est que Sénèque était, alors vous retrouvez cette ambiguïté mais dans un autre ordre, là, dans sa vie, pas dans son écriture seulement, c'est que, vous le savez, Sénèque était le précepteur de Néron. Donc, il est celui qui a enseigné, finalement, le stoïcisme à Néron. Et vous voyez ce qu'est devenu Néron. C'est-à-dire, bon, un empereur déchaîné, bon, peut-être aussi la fabrication de sa mère Agrippine, mais il tuera sa mère, il tuera un peu tout le monde autour de lui, jusqu'à son précepteur, justement, qui le poussera au suicide, je vous expliquerai un peu comment. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Néron est une figure aussi de la folie. De la folie au pouvoir. Néron ira jusqu'à incendier Rome, vous voyez, pour pouvoir la rebâtir d'après ses propres souhaits. Alors il fera porter le chapeau, vous savez, aux chrétiens, etc. Mais il ne faut pas croire que les Romains eux-mêmes n'étaient pas absolument scandalisés par ce que faisait Néron. Et il régnait vraiment par la terreur. Hein. Et même lorsque vous lisez Tacite, vous découvrez qu'au lendemain du déclenchement, plutôt chez Tacite, le déclenchement de la persécution des chrétiens, très très violente sous Néron, est suivi d'actes sacrilèges dans les temples même païens. C'est-à-dire qu'il va récupérer l'or, l'argent, il va dévaster même le paganisme. Donc il est vraiment une figure d'une folie furieuse, tyrannique, etc., pour les Romains eux-mêmes, pour les païens eux-mêmes. Alors, la question, je vous enseigne la morale, peut-être que l'un d'entre vous va devenir un tueur en série et qu'on pourra dire, bah, vous voyez, il a eu Fabrice Adjadj comme professeur. Bah, Fabrice, on se demande ce que tu lui as enseigné, quoi. Ça ne devait pas être bien brillant, quoi. Bon. On pourrait avoir ce soupçon sur Sénèque. C'est-à-dire se dire, mais comment ça se fait qu'il ait eu ce jeune homme, si vous voulez, comme élève, et qu'il soit devenu tel qu'il est? Est-ce qu'il n'y a pas là une impuissance du stoïcisme? Est-ce que c'est un simple échec? Ou alors, est-ce qu'on va retrouver la même ambiguïté qu'il y a dans l'écriture de Sénèque? C'est ça la question que je me pose. C'est-à-dire, un lien entre le déchaînement des passions et l'absence de passion. Là, c'est ça la question qui se pose pour nous. Voilà pourquoi Sénèque m'intéresse spécialement comme penseur du stoïcisme, parce que il va nous en montrer les limites. Un peu comme Épicure nous a montré, comme Peter Singer nous a montré, vous avez vu, à chaque fois on a vu des figures qui nous faisaient voir aussi des contradictions. Épicure critique l'hédonisme et il montre bien que l'hédonisme finalement aboutit au fait qu'on ne peut pas chercher le premier plaisir venu et finit par une pensée, vous voyez, où on cherche l'absence de trouble, oh là là, faut faire attention, pas d'excès, pas de... Bon, l'autre nous parle de calcul, de on va tout prendre, les animaux, les hommes, etc. Et puis à la fin, on arrive à une sorte de paralysie de l'action ou de projet global d'informatisation de l'éthique, si vous voulez. Et là... on va avoir quelque chose d'analogue, mais à partir, voyez, de la pensée stoïcienne. D'accord ? Me semble-t-il. D'où ce titre ambigu paradoxal à dessein, que j'ai choisi pour cette leçon, donc Sénèque ou la passion du stoïcisme. Que la stoïcisme puisse être une passion est quelque chose, vous voyez, d'apparemment contradictoire. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Finalement, qu'est-ce qui nous pousse à devenir, voyez, stoïcien? Il faut toujours se poser cette question-là. Vous savez, quand vous regardez la science, la technoscience, vous pouvez dire bah, c'est un champ de rationalité pure où l'homme et les soucis humains sont absents. Vous voyez, on serait dans une objectivité froide. Oui, mais quel est le ressort humain qui pousse à aller vers cette objectivité froide? Ce sont des choses très obscures. Ce sont peut-être même parmi les pulsions les plus obscurs qui soient. Vous voyez ? Donc, il s'agit de voir cela dans le stoïcisme. Alors, pour commencer, je vous propose donc des textes d'un des auteurs stoïciens les plus connus pour introduire au stoïcisme, bien sûr, malgré tout, parce qu'il faut le connaître, donc des textes après Épicure, donc Épictète. Épictète est l'auteur de ce petit livre, vous savez qu'on étudie aussi en classe de terminale, vous savez, parce qu'en France, on est obligé d'étudier une œuvre intégrale Alors, les professeurs ont trouvé les œuvres les plus brèves qui soient. Donc, soit la lettre à Ménécée d'Épicure, soit le manuel d'Épictète. Vous voyez, c'est classique. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à l'épicurisme ou au stoïcisme en France, parce que finalement, ce sont des œuvres brèves et c'est commode. Et vous avez ce manuel qui est un texte assez court, mais d'une densité vraiment extraordinaire, et qui est un véritable livre de sagesse. Hein. Vraiment, ça ressemble d'ailleurs à ce que vous allez trouver dans certains livres contemporains, même que vous trouvez dans les supermarchés, etc. Sauf dans les supermarchés, c'est moins bon. Épictète, si vous voulez vraiment un livre de sagesse, voilà, vous regardez Épictète, c'est bien. C'est très bien fait. Vous avez aussi les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, vous avez les grands auteurs stoïciens. Et on voit bien d'ailleurs qu'apparaît avec eux aussi en philosophie une certaine figure de sage qui va faire fortune par la suite et qui paradoxalement va bien, oui, enfin, fonctionne dans les supermarchés. La paix intérieure, ça a pris des nouvelles formes, hein, mais vous voyez, bon. Des formes néo-bouddhistes aussi, néo-stoïciennes, néo-bouddhistes. On ne sait pas. Ouais. Le zen. Autrefois, on disait rester stoïque. Maintenant, on dit rester zen. Vous avez remarqué, mais il y a un lien. Sauf que le zen, c'est plus cool. C'est plus stoïque, c'était un peu marmoréen, quoi. On était un peu pétrifié. Zen, c'est cool. Vous voyez, vous êtes assis, vous... Ouais. Parce que zen, ça veut dire assis. Enfin, la position zazen, c'est la position assise. Voilà. Alors, ce texte, vous voyez, commence par la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et une des grandes obsessions du stoïcisme, c'est l'événement. C'est le fait qu'il y a des événements. Contrairement, on pourrait dire, à l'utilitarisme, pour qui, d'une certaine façon... l'événement est un peu oublié, parce que s'il y a des événements, ça veut dire qu'il y a des choses qui échapperaient à notre action, à notre calcul, et qui rendraient d'une certaine façon le calcul impossible. Pour le stoïcien, il y a des événements, il y a de la contingence. Et le grand danger, c'est de faire dépendre notre bonheur ou notre paix de choses qui nous échappent. C'est-à-dire qui sont hasardeuses, qui relèvent de la bonne fortune, qui relèvent... Voilà. Il y a des événements dans le monde et ces événements nous échappent. Il y a de la contingence et cette contingence nous échappe. Donc si tu veux trouver la paix, il va falloir que tu te détaches de la contingence. Vous voyez ? Et ça, c'est très intéressant, c'est un des aspects de la morale qui est vraiment l'envers de ce qu'on avait vu dans l'engagement utilitariste, mais qui tournait bizarrement. On doit se préoccuper de tout quand on est utilitariste, etc. Là, on a cette idée que l'enjeu de la morale, c'est d'abord la paix intérieure. Donc on retrouve un aspect, vous vous souvenez, hein, de l'épicurisme qui avait disparu dans l'utilitarisme. L'utilitarisme avait repris le calcul des plaisirs et des peines, l'avait élargi au monde d'une certaine façon, mais oubliez que chez Épicure, il y avait aussi cette recherche de l'ataraxie, de l'absence de trouble. La première chose, c'est cette absence de trouble. Et, d'une certaine façon, l'enjeu de la morale, ce serait de trouver un état d'égalité, d'humeur, d'âme, qui puisse traverser tous les aléas de l'existence. Remarquez que c'est peut-être ce que nous cherchons aussi dans le christianisme, vous voyez. Donc quand je vous disais qu'on essayait de voir des systèmes qui pouvaient servir d'interprétation même au christianisme, qui ont servi d'interprétation au christianisme, mais mon but c'est de vous montrer que ça ne marche pas bien, mais peut-être que c'est ça qu'on cherche, vous voyez, c'est qu'on se dit... J'ai des hauts et des bas, je suis parfois en colère, d'autres fois passionné, d'autres fois déprimé, d'autres fois... Et l'enjeu, ce serait de trouver une sorte de stabilité intérieure, vous voyez, d'égalité intérieure. Et c'est ça l'enjeu de la morale. de Christ va me donner la paix. Il y aurait une croix zen, quoi. Oui ?
Je tiens mon âme égale et silencieuse.
Je tiens mon âme égale et silencieuse, comme un petit enfant contre le sein de sa mère. Oui. Bien sûr. L'âme égale et silencieuse. Et on va pouvoir trouver, d'ailleurs, dans le christianisme, des points de jonction. L'âme égale, c'est l'équanimité, hein, typiquement stoïcienne. Et il y a même eu des époques, on pourrait dire, au XVIIe siècle, l'idée qu'il y avait une sorte de confluence, voire même d'accord possible entre le christianisme et le stoïcisme. Pascal est fasciné par le stoïcisme, par exemple. Mais remarquez ici que ça n'est qu'un verset d'un seul psaume. Parce que si vous prenez tous les psaumes, vous voyez toutes les passions humaines, au contraire. Et toutes les passions humaines, dans un état d'intensité, parce qu'il y a tout, il y a même la révolte, d'une certaine façon, contre Dieu. C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt. Pourquoi dors-tu? Notre ventre colle à la poussière. On se révolte aussi dans les psaumes. La parole de Dieu assume la colère, assume la tristesse, assume toutes les passions. Sauf qu'elle les, d'une certaine façon, elle les rend divines. Ou elle les réintroduit dans une relation avec Dieu. Ce n'est pas des passions qui nous coupent de cette relation, mais qui sont ressaisies. Et l'un des enjeux, si vous voulez, de la psalmodie quotidienne, hein, de la récitation des psaumes dans la vie des moines, c'est de jeter nos petites passions humaines dans les grandes passions divines qui sont portées par les psaumes. Ce n'est pas d'abolir les passions, vous voyez, c'est plutôt de les ressaisir et de les purifier et de les redéployer à hauteur divine. Vous voyez ? Mais peut-être que certains d'entre nous, parce que c'est humain, disent « Ah, si enfin j'étais en paix, vous voyez ?» La paix conçue comme un état de stabilité. Alors que c'est pas la paix du Christ, est-ce que c'est ça ? Regardez le Christ lui-même, hein, bon. C'est pas... Il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je l'avais dit, hein, c'est pas Bouddha qui est en croix, hein, c'est pas détaché. Oui. Et puis, il y a cette affirmation fondamentale qui est sans cesse reprise d'ailleurs par les papes lorsqu'ils évoquent la paix. C'est une citation d'Isaïe, c'est « Pax opus justitiae », la paix est l'œuvre de la justice. Donc si vous voulez la paix, vous devez combattre pour la justice. Il ne s'agit pas d'avoir un bien-être, un confort, vous voyez, qui cherche à cacher les injustices. Donc la paix n'est pas conçue comme ce sort de bien-être intérieur, etc. Mais pour les stoïciens, ça va être vraiment, et chez eux, mais on trouverait ça dans d'autres traditions, donc dans le bouddhisme, dans la mindfulness aujourd'hui, vous voyez, l'éveil, etc. Enfin, tous les trucs à la mode chez tous les types qui travaillent dans l'informatique, d'ailleurs. C'est le, ouais, le campus de Google. Vous avez le truc de méditation, hein, le centre de méditation. Donc, il faut méditer. La méditation. Mais qui est vécu comme une sorte de détachement, de refaire le vide, de retrouver la paix intérieure, de retrouver comme ça. Après, vous pouvez entrer dans le monde, vous engager dans le monde, et puis tous les troubles, tout ça, vous glisse, vous voyez, comme l'eau sur les ailes du canard, et vous agissez, vous voyez, en toute pondération, etc. Voilà, bon. Et ça, c'est le stoïcisme, c'est déjà du stoïcisme. En moins bien sûr, parce que le stoïcisme sans Sénèque, quoi, si vous voulez. Bon, alors que le seul intérêt du stoïcisme, c'est Sénèque, c'est plus les écrivains et leurs œuvres que... Donc, quelle est la première distinction que fait Épictète ? C'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Voilà. Vous lisez ce passage. « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Vous voyez, ici, agir, ça veut dire que ça dépendrait entièrement de nous. Nous pouvons bien sûr agir de telle sorte que nous prenons soin de notre corps, mais notre corps, malgré tout, est soumis à une contingence qui fait qu'il peut tomber malade alors même qu'on en aurait pris soin. Notre corps est vulnérable, il peut être blessé, il peut y avoir un accident. La réputation, je peux soigner ma réputation, je peux briguer des charges publiques par ma volonté, mais tout d'un coup, je peux aussi tout perdre. Il y a justement un mouvement qui est celui de l'événement. Hein. Il y a des événements dans le monde et donc des choses qui m'échappent. Et on n'est plus du tout dans l'idée d'une ressaisie rationnelle de tout cela. Oui ? Eh bien, elle arrivera. J'en ai pas d'autres. Hein. Si vous avez, soit il en reste, soit il faudra en refaire. Mais j'en ai fait 56, peut-être vous êtes beaucoup plus que ça en fait, je ne sais pas. J'en ai fait 10 de plus, donc je pense. Mais peut-être que vous êtes plus encore, je ne sais plus. En tout cas, la salle est très remplie, c'est vrai en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de place vide. C'est vrai. Si, peut-être juste à côté de Jérémy. Pourquoi à côté de Jérémy? Alors, et voilà la solution, c'est que tout se joue dans cette distinction. Il y a deux types de mots, finalement. Des mots qui ne viennent pas de toi, et sur cela, tu ne peux rien. Donc, tu n'as qu'à te détacher, ou t'y résigner, ou les accepter. Mais il y a aussi tous ceux qui viennent de toi, c'est-à-dire le fait que tu fais un mauvais usage de ta volonté, un mauvais usage de ton intelligence. Et c'est sur cela que tu peux travailler. D'ailleurs, ton corps peut être atteint, mais si le mal qui atteint ton corps finit par atteindre ton âme, c'est qu'au fond, tu n'as pas bien travaillé à la distinction de ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Donc il y a une... Oui ? C'est intéressant parce que elle est en train de faire exactement ce dont elle est en train de parler, c'est-à-dire en gros, elle pense à la parole dont elle pensait que ça dépendait d'elle, voyez. Elle n'arrive pas à la prononcer. Et ça montre bien qu'il y a une différence entre ce qui est en vous là et ce qui va sortir par votre corps. Vous pouvez. Marion, vous pouvez écrire, si vous voulez, vous découpez des lettres dans un journal et puis vous m'envoyez ça.
Mais du coup, dans la parole qui ne vient pas de nous, elle peut quand même être influencée par ce qu'on dit. Parce que par exemple, dans une conversation, ce qu'on va dire, on va influencer la réponse de l'autre.
Oui.
On va dire, ça vient pas de moi, donc je peux bien...
Oui, non, mais attention, quand il dit ce qui ne dépend pas de nous... Vous avez bien vu tout ça, le corps, l'argent, bah oui, ça dépend de moi aussi peut-être de gagner plus d'argent, vous voyez, mais je n'ai pas plein pouvoir là-dessus. C'est ça ce qu'il veut dire. Oui, j'ai un certain pouvoir, mais vous voyez là, ça ne dépend pas entièrement. Là, la dépendance dont il s'agit, c'est qu'est-ce qui dépend vraiment que de nous et sur lequel finalement nous pouvons pleinement agir. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est... La morale concerne l'action. Sur quoi avons-nous plénitude d'action ? Parce que pour le reste, ça dépend de la fortune, ça dépend du hasard, ça dépend... Et ça nous échappe. Donc il faut bien faire cette distinction au départ. Oui, Antoine ? Bien sûr, on peut agir aussi. On va voir ça. Il ne faut pas oublier que les stoïciens... à la différence des épicuriens, vous voyez, qui se retirent dans le jardin, les stoïciens, au contraire, ont formé des chefs d'État. Voilà, Marc Aurèle est empereur, hein, et c'est un des plus grands penseurs stoïciens. Donc, c'est des gens qui vont être dans l'action. Le problème, c'est qu'il faut voir comment l'action se joue chez eux, à partir d'un détachement profond par rapport à ces problèmes personnels, quoi. Alors, voilà ce qu'il dit. Hein. Donc, Dès qu'une image viendra te troubler l'esprit, pense à te dire, tu n'es qu'image et non la réalité dont tu as l'apparence. Puis examine-la et soumets-la à l'épreuve des lois qui règlent ta vie. Avant tout, vois si cette réalité dépend de nous ou n'en dépend pas. Et si elle ne dépend pas de nous, sois prêt à dire, cela ne me regarde pas. Et cette phrase est très forte. Si tu as une marmite et qu'elle se casse, c'est normal, c'est une marmite, c'est dans sa nature de se casser. Si tu as une femme et qu'elle meurt, ne va pas te lamenter, il était dans sa nature de mourir. Ça ne dépendait pas de toi. Oui, sauf si vous êtes négligent, vous l'assassinez vous-même. Enfin bon, là, on ne parle pas de ça, hein, bien sûr. On parle vraiment d'une distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et c'est pour cela que la seule chose qui dépend de nous, pour les stoïciens, c'est qu'est-ce qui nous appartient vraiment ? L'usage que nous faisons de nos représentations. Voilà comment continue Épictète, hein. J'ai pris différents fragments, hein. « Ne te monte jamais la tête pour une chose où ton mérite n'est pas en cause. Passe encore que ton cheval se monte la tête en disant « je suis beau », mais que toi tu sois fier de dire « j'ai un beau cheval », rends-toi compte que ce qui t'excite, c'est le mérite de ton cheval. Qu'est-ce qui est vraiment à toi ? L'usage que tu fais de tes représentations. Toutes les fois que cet usage est conforme à la nature, tu peux être fier de toi. Pour le coup, ce dont tu seras fier viendra vraiment de toi. Ce qui vient vraiment de nous, c'est l'usage de nos représentations. Et ce qui nous cause du trouble dans l'âme, pas dans le corps, ne dépend pas de nous, mais ce qui nous cause du trouble dans l'âme, c'est le mauvais usage de nos représentations. Tout l'effort du stoïcien, c'est un travail sur ses représentations. C'est un travail intérieur, c'est un combat et une purification des représentations. Vous vous souvenez, on avait vu ça, c'est l'objection que faisait Épicure par rapport à la peur de la mort, c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez les stoïciens. Et chez Épictète, chez d'autres, il dit, en gros, si tu as peur de la mort, c'est parce que tu commets une erreur de représentation, tu te vois, toi, vivant, en train de te déplorer, toi, mort, mais ça n'a aucun sens. C'est une erreur de représentation. Si tu es malheureux parce que tu étais président de la République et puis tu perds tout, d'ailleurs, ça peut être de manière bien méritée, si vous voulez, hein, bon, la plupart du temps. Mais enfin, tu n'as plus le pouvoir et que ça te rend malheureux, mais ça ne dépendait pas de toi. Et si tu mets ton cœur dans quelque chose qui est aussi passager, aussi fugace, aussi... Eh bien alors, malheur à toi, ça c'est normal. Donc il faut que tu travailles en te disant que cela ne dépendait pas de toi et tu dois revenir sur ce qui dépend de toi. Remarquez une chose, hein. On pourrait trouver quelque chose d'analogue dans l'Évangile, vous savez, là où est ton trésor, là est ton cœur, donc... Ne travaillez pas pour ce qui est passager, pour ce qui est contingent. Voyez, mettez votre trésor dans le ciel qui, lui, ne passe pas, etc. D'accord ? Avec cette idée que si les choses sont passagères, elles n'ont pas de valeur, ne compte que ce qui est immuable. Ça, c'est très stoïcien. Hein ? Et si vous pouvez faire une lecture, si vous prenez ce passage, vous l'isolez de la doctrine de l'amour, si vous voulez... Vous arrivez à un stoïcisme. Parce que est-ce que c'est ça ce que nous dit le Christ ? C'est-à-dire, attache-toi à ce qui est immuable. Pardon ? L'amour jamais ne passera, oui. Et en même temps, l'amour est lui-même une passion, si vous voulez. Ce n'est pas l'usage de mes représentations, l'amour, simplement. C'est quelque chose que je subis. Il y a un pâtir de l'amour divin qui excède. Vous voyez cette sorte de contrôle, de maîtrise de soi, de citadelle intérieure dans laquelle se retranche le stoïcien. Ah oui, bien sûr. Ça, on peut le dire. Non, mais la question, c'est est-ce qu'on peut lire le christianisme comme une forme de stoïcisme ? C'est ça la question. C'est une grande question parce que certains l'ont analysé comme ça. Et cette fascination pour l'immuable, pensez que plus c'est immuable, plus à la fin, vous voyez, vous vous mettez à chérir les cailloux et à détester les enfants. Parce qu'un enfant, il est plus fragile peut-être qu'un rocher, vous voyez. C'est ça ce qui se passe. Bah oui, le rocher va être plus solide, donc vous voyez, ce qui est passager, oulala, c'est pas très... Hein. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est fou dans cette logique-là. C'est pas la durée d'une forme hein, qui fait sa dignité. Vous savez, il y a vraiment cette logique-là, il y a une certaine métaphysique qui ramène tout à la question de la durée. Un être est beaucoup plus être parce qu'il dure plus longtemps, si vous voulez. Mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est sa durée qui fait la valeur d'un être, ou est-ce que c'est justement sa forme, la dignité de sa forme, qui a plus de qualité de... Par exemple, est-ce qu'une éphémère n'est pas plus digne qu'un rocher? Mais en tant que c'est un être vivant, sensible, etc., vous voyez, ben c'est un être supérieur. Vous voyez bien que ce qui fait la valeur de l'être n'est pas à penser uniquement en termes de durée. D'accord? Mais à partir de ce que peut cette nature, vous voyez, de ses facultés, de ses... Donc, je reviens à cette remarque. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si je suis triste d'avoir perdu telle ou telle chose qui, au fond, ne m'appartenait pas entièrement. Alors, ça va encore plus loin, puisque le stoïcien va dire... Dès lors, quel est le bon rapport à avoir avec l'événement? Eh bien, ça n'est pas d'essayer de le conformer à notre volonté, c'est justement de l'accepter comme il arrive. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle... chez les stoïcismes latins, amor fati, hein, l'amour du fatum, du destin. Le destin n'étant pas conçu chez eux comme une sorte de grosse machinerie déterministe, hein, c'est vraiment la volonté de Dieu, on pourrait dire. D'un Dieu qui est immanent à la nature. Mais c'est ça qui est en jeu dans l'amour du destin. Oui.
Philippe Rousseau nous a dit que le clown n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui veut ce qu'il fait. Donc, il décide de vouloir ce qui arrive.
Bien sûr. C'est très intéressant parce que je vous ai dit, il y a une sagesse stoïcienne dont on pourrait retrouver des éléments partout. Je n'ai pas dit que rien de ce qui est stoïcien n'était chrétien, mais j'ai dit que le christianisme disait autre chose que ne dit pas le stoïcisme. Et alors, maintenant, vous pouvez... c'est-à-dire que vous trouverez ça, moi j'ai trouvé ça aussi dans... C'est pas seulement Philippe Rousseau, mais j'ai trouvé ça dans les WC de Teresa Goldman. Je ne sais pas si vous êtes allé. Ah oui, elle a eu fait la même expérience, Éléonore, merci. Et vous avez une phrase, alors, je vais vous lire la phrase d'Épictète, vous allez me dire si ça ne ressemble pas tout à fait à cette phrase. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Et là, il y a quelque chose, je crois, où il s'agit de ne pas faire ce qu'on veut, mais de vouloir ce qu'on fait. Voilà. Ça, c'est très proche de ce qui vient d'être dit là. Veuille que les événements arrivent comme ils arrivent et non pas comme tu le veux. Mais ce qui permet de dire ça à un stoïcien, je vous le rappelle, hein, cette phrase est absolument illisible dans une mentalité qui n'aurait pas l'idée que le cosmos est ordonné et que le cosmos est divin. Parce qu'en fait, ce que veut dire le stoïcien, c'est qu'il y a un ordre. Les événements qui arrivent sont pris dans une raison supérieure à ce que tu peux comprendre, donc tu dois l'accepter. Donc, n'oubliez pas que derrière cela, il y a l'idée qu'il y a une providence divine. Mais cette providence divine, cet ordre du monde, vous voyez, permet aux stoïciens d'expliquer le mal. Le mal est toujours, pour le stoïcien, local. Il n'atteint que la partie, mais il n'atteint que la partie au bénéfice du tout. Et si vous prenez un tableau et vous regardez de très près un endroit du tableau, vous dites « Ah, c'est une tache !» C'est une tache. Une tache immonde. Mais si vous prenez du recul et vous voyez comment cette tache s'harmonise avec d'autres taches, vous avez un ensemble qui est beau. Et donc, l'enjeu pour le stoïcien, c'est de dire « Regarde, ce qui arrive t'apparaît comme un mal, mais si tu n'y peux rien, si tu n'y peux rien, bien sûr, hein, c'est bien ça ce qui est en jeu, hein, ça, si ça ne dépend pas de toi, alors il faut que tu acceptes que cela arrive comme cela arrive parce que cela contribue au bien du tout. Sans que tu le saches, sans que tu le comprennes. Mais tu peux comprendre, avec ta raison, qu'il y a une raison plus grande. La seule chose, c'est qu'il t'échappe. Vous allez me dire, mais ça aussi, ça peut être très proche du christianisme. Oui, mais on a l'impression qu'on est face à quelque chose qui est un peu inversé. Parce que, si vous voulez, dans le christianisme, on pourrait dire que la maîtrise de soi est pour l'abandon à la providence. Alors qu'ici, l'affirmation d'une providence est pour l'absence de trouble. Pour la maîtrise de soi. C'est un peu renversé. Dire que dans le christianisme, il n'y a de maîtrise de soi que pour entrer dans l'amour de Dieu, que pour garder la relation avec Dieu. Alors qu'ici, le rapport à Dieu est plutôt en vue, enfin, pensé à partir de la paix intérieure, l'absence de trouble, l'égalité d'âme.